Test 8. Épreuve orale collective.
Dominique Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de faire la biographie croisée de deux hommes qui partageaient la même passion pour la littérature, pour l'écriture. Joseph Kessel et Maurice Druon ont tous les deux été des écrivains célébrés de leur vivant, adoubés par toute une génération. Mais ils n'étaient pas seulement reliés par l'écriture, ils étaient d'abord et surtout liés par le sang, puisque Maurice Druon est le petit-neveu de Joseph Kessel. Pourtant, ils ne portent pas le même nom pour une bonne raison. Les dessous de l'histoire familiale sont un peu compliqués.
Oui, en effet, c'est ce lien de famille qui m'a attirée vers ce sujet. J'ai eu envie d'explorer cette parenté inattendue et assez mal connue entre les deux hommes, donc entre l'oncle et le neveu. Maurice Druon n'a jamais porté le nom de Kessel, et pourtant il aurait pu, puisqu'il est le fils d'un jeune frère de Joseph Kessel. Mais ce jeune frère, qui s'appelait Lazare Kessel, ne l'a pas reconnu à sa naissance et s'est suicidé lorsque le petit Maurice, qui s'appelait d'ailleurs Samuel à sa naissance, n'avait que 2 ans. Donc il y a dans l'enfance de Maurice Druon un drame, qui était une sorte de drame fondateur, et un drame qui évidemment est partagé avec Kessel. Car pour Kessel, la disparition de ce jeune frère restera une des clés de sa personnalité, une culpabilité qu'il va traîner pendant des années.
20 ans tout juste les séparent. Joseph Kessel est né en 1898 et Maurice Druon en 1918. Ils sont restés toute leur vie très proches. On peut parler d'une relation, d'un amour quasiment filial. Quelle place va avoir Joseph Kessel dans les premières années de la vie de Maurice Druon? Est-ce qu'il est présent dès le début ou alors ils vont se rapprocher au fil des années?
Alors au début, Kessel est un peu l'oncle lointain, presque l'oncle d'Amérique, si j'ose, parce qu'il ne fait que passer. Il vient voir de loin le petit enfant. Lorsque Druon grandit, il lui porte des livres et puis il disparaît. L'enfant sait que Joseph Kessel est très célèbre, qu'il a des lecteurs dans le monde entier, que L'équipage, Belle de jour, Fortune carrée sont des romans très importants, mais finalement, ce n'est qu'une lointaine silhouette. Ils ne vont se rapprocher que lorsque Maurice Druon est adolescent et affirme dès l'adolescence sa vocation d'écrivain. Et là, Kessel est passionné, attiré par le jeune Maurice, et ce lien d'écrivain à écrivain sera très fort entre eux jusqu'à la fin.
Vous débutez ce livre, Les Partisans, sur une scène extrêmement romanesque. Une nuit de 1942 où il pleut à torrents, deux hommes et une femme sont en train de gagner clandestinement l'Espagne. Alors on va reparler dans quelques minutes de cette femme, mais avant ça quelques mots sur la période de l'histoire sur laquelle ce livre s'ouvre. Nous sommes donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Joseph Kessel et donc son neveu Maurice Druon sont en train de fuir une France occupée. Donc Kessel est déjà un grand reporter, il connaît la guerre, il l'a déjà faite, mais pour la première fois de sa vie, il doit fuir tel un juif errant comme ses ancêtres russes. Lui qui a déjà vu tant de choses à 45 ans, c'est un événement là qui va vraiment le bouleverser profondément.
J'ai voulu commencer ce livre en 42, effectivement, parce que, bien que Kessel ait déjà plus de 40 ans, Druon un peu plus de 20, c'est dans leur histoire une date vraiment très importante. Ils vont quitter ensemble la France, ils vont rejoindre ensemble clandestinement la France libre, c'est-à-dire rejoindre Londres et le général de Gaulle. Mais ce qui est important, c'est que justement, ils marchent l'un derrière l'autre, ils marchent au même rythme, ils marchent au même pas. Et cette espèce de voyage picaresque, dangereux, clandestin, sous la neige, dans le froid, j'ai aimé le raconter parce qu'il m'a semblé que c'était le moment où les deux hommes sont véritablement soudés.
Alors, ils ne sont pas que tous les deux, dans cette nuit de 1942, à côté d'eux marche une femme. Cette femme, c'est Germaine Sablon, la maîtresse de Joseph Kessel. Elle est connue à l'époque pour être chanteuse, mais comme ses compères, elle va avoir un destin tout aussi incroyable, à tel point que le personnage ne vous a plus quitté pendant toute l'écriture du livre, parce qu'il me semble qu'au départ, elle devait juste être là pour cette première scène, mais au final, vous avez raconté toute sa vie dans le livre.
Au départ, j'ai été très étonnée de la trouver, parce que j'ai vraiment construit mon livre sur le duo Kessel-Druon. Mais racontant ce premier chapitre, décembre 42, janvier 43, cette traversée de l'Espagne jusqu'au Portugal et jusqu'à Londres, j'ai découvert qu'en effet, ils n'étaient pas seuls à marcher ensemble sous la neige, mais qu'il y avait Germaine Sablon avec eux. Curieusement, lorsqu'ils arrivent à Lisbonne, début 43, ils trouvent tous les deux, Kessel et Druon, un avion pour aller à Londres, mais il n'y a que deux places. Et ils partent tous les deux. Ils laissent Germaine Sablon sur les bords du Tage. Donc je me suis interrogée, évidemment, sans avoir d'ailleurs la réponse, pourquoi sont-ils partis tous les deux, laissant derrière la femme. Mais d'autre part, je me suis dit, alors, est-ce que moi aussi je vais l'abandonner sur les bords du Tage? Et je n'ai pas eu envie de l'abandonner, parce que c'est une femme hors du commun. C'est non seulement une chanteuse et une chanteuse célèbre en son temps, mais c'est surtout une femme très courageuse, de grande personnalité, et j'ai décidé de la garder, et elle va rester tout au long du livre, elle va rythmer finalement la narration, elle va revenir avec ses actes d'éclat, mais aussi avec son étrange douceur, sa modestie, c'est une femme extrêmement attachante. Donc je l'ai gardée tout au long du livre.
Et effectivement, c'est un personnage très intéressant, parce qu'elle éclaire sous une autre facette, en fait, Kessel et Druon, puisque contrairement à ce duo qui s'est surtout engagé à travers l'écriture pendant la guerre, elle, Germaine Sablon, elle a été assurément une femme d'action. Elle a été la première des trois à s'engager dans la résistance et elle a été sur le terrain pratiquement toute la guerre.
Oui, vous avez décelé l'étrangeté, c'est-à-dire d'habitude l'héroïsme physique, etc., c'est du côté des hommes. Et puis, les femmes sont à l'arrière, elles attendent, elles subissent la guerre. Or, là, non que Druon ne soit pas du côté de l'héroïsme, parce qu'au contraire, ils sont courageux aussi. Kessel est quand même croix de guerre 14-18, il a fait la guerre, et une fois qu'il arrive à Londres, Kessel, il aurait aimé se réengager dans l'aviation, comme pendant la Première Guerre, mais le général de Gaulle lui a dit « Vous êtes trop vieux, ce n'est pas ce qu'on attend de vous, écrivez donc un livre ». Et il va écrire « L'armée des ombres » qui sera publié en 43 à Alger et qui est le grand roman de la résistance. Quant à Druon, il va participer aux émissions de la BBC et notamment à l'émission des Français libres qui s'appelle « Honneur et patrie », il va donner des petits billets, etc. Donc il participe lui aussi à cette résistance, à cette guerre. Mais des trois, c'est effectivement Germaine Sablon qui est la plus engagée physiquement, car vers l'été 43, elle quitte Kessel, elle quitte l'Angleterre, elle rejoint l'Afrique du Nord et elle rejoint en particulier une ambulance qui s'appelle l'ambulance Hatfield Spears et qui a besoin d'infirmières, de nurses. Jusqu'en 45, elle va être active au sein de cette ambulance, c'est-à-dire qu'elle va suivre les combats de très près, à quelques kilomètres, elle est derrière les combats. Elle va, avec ses camarades, ramasser les blessés, les mettre sur des civières, dans les camions. Donc, à ses risques et périls, parce que les bombes tombent quelquefois à l'arrière. Il y a d'ailleurs des infirmières amies de Germaine Sablon qui seront tuées. Donc, elle a un engagement physique total qui force l'admiration. Elle aura d'ailleurs la Légion d'honneur à titre militaire.